Permettez-moi d'abord de dire quelques mots avant le sermon par lui-même. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à préparer cette fête. Beaucoup d'entre vous ont fait de longs kilomètres, de longs voyages pour venir ici. Je tiens à vous en remercier du fond du cœur. Cette chapelle vient d'être terminée et c'était important que nous puissions honorer le bon Dieu ici et glorifier la Sainte Vierge tous ensemble. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'intérieur de la maison à tout préparer, à préparer le repas. Je ne vais pas donner de nom parce que je vais en oublier, mais sachez que vous êtes tous au fond de mon cœur de prêtre, parce que nous savons très bien que nous ne pouvons rien faire sans votre aide de ce côté-là. Je voudrais vous rappeler d'abord l'horaire de la journée. Donc après le sermon, nous aurons la joie de donner la livrée du Seigneur à Cyril Calestrupa, qui finit son postulat aujourd'hui, qui commence son noviciat. Après la Sainte Messe, à 12h30, vous êtes tous invités à l'intérieur de la maison Saint-Ignace, maison de retraite, et nous aurons un buffet qui vous a été préparé. Vers 15h, nous reviendrons ici pour le début de la procession. Nous aurons une procession de la Sainte Vierge. Vous avez tous un petit livret, j'espère qu'il y en a assez pour tout le monde. À l'entrée de la chapelle, il y a un petit livret que vous pouvez utiliser pour cette procession et aussi pour suivre la messe aujourd'hui. Donc nous aurons une procession pour aller jusqu'à l'église du village et revenir en récitant le chapelet en même temps. Après cette procession, nous reviendrons ici à la chapelle pour terminer par le salut du Saint-Sacrement et le renouvellement du vœu de Louis XIII. Consécration de la France au cœur immaculé de Marie. Ensuite, à 5 heures, nous aurons deux conférences de doctrine qui nous seront données à la salle Sainte-Jeanne d'Arc. La salle Sainte-Jeanne d'Arc est vers l'église, vous descendez vers l'église, à peu près 300 mètres d'ici. Sur la droite, il y a un bâtiment qui s'appelle la salle Sainte-Jeanne d'Arc, qui sera donc aménagé pour pouvoir tous vous recevoir, il y aura la place pour tout le monde. Après ces deux conférences de trois quarts d'heure chacune, vous reviendrez ici et vous pourrez consulter à ce moment-là les ouvrages mis à votre disposition et les auteurs qui seront là signeront aussi les ouvrages, si vous le désirez, pourront dédicacer vos ouvrages. Et nous terminerons la journée vers 8h par un concert qui vous sera donné. Honneur de notre Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, bien cher Cyril, nous fêtons aujourd'hui trois choses importantes. La première de ces choses, nous fêtons l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie. Deuxième, nous fêtons la fête nationale de notre pays, la France. Et troisièmement, nous fêtons aussi la prise d'habit de notre postulant, Cyril Calestrupa. Trois choses importantes donc pour nous, en tant que catholiques. La première des choses, évidemment, c'est la fête de l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie. Vous savez que c'est le pape Pie XII qui, en 1950, a déclaré, comme dogme de foi, le fait que la Très Sainte Vierge Marie, à la fin de son cours, de sa vie, en ce cours terrestre, à la fin de sa vie ici-bas, pardon, est monté au ciel. Il n'a pas déclaré si la Sainte Vierge était morte ou non. Donc de ce côté-là, nous sommes encore libres de croire ce que nous voulons. Vous savez que l'Église grecque enseigne en général la dormition de la Très Sainte Vierge Marie. Il pense que la Très Sainte Vierge Marie s'est endormie puis est montée au ciel. L'Église latine penche plutôt vers la mort de la Très Sainte Vierge Marie, la mort physique de Notre-Dame, et ensuite sa montée au ciel. Quoi qu'il en soit, ce qui est dogme de foi, c'est qu'elle est montée avec son corps et son âme vers le ciel, vers le bon Dieu, pour retrouver son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'elle est sa mère, sans attendre, comme nous, la fin du monde pour la résurrection de son corps. Donc une fête extrêmement importante, qui n'est pas le plus important des privilèges de notre Sainte Vierge Marie. Il faut ne pas oublier que tous ces privilèges, que ce soit l'Immaculée Conception, l'Assomption, etc., découlent tous d'un point absolument fondamental, qui est à la base même de toute la gloire de la Très Sainte Vierge Marie, à savoir sa maternité divine. C'est parce que la Très Sainte Vierge Marie est mère de Dieu, qu'elle a eu tous ces privilèges. C'est pour cela qu'il faut qu'elle ait dans le cœur d'un chrétien, dans le cœur d'un Français aussi, il faut qu'elle ait une place tout à fait particulière. Et c'est pas pour rien que l'Église catholique, justement, a choisi la date de ce 15 août, et ceci bien avant même que le pape ait déclaré ce dogme de foi, pour être la fête nationale de notre pays. Le 14 juillet, c'est la fête de la Révolution. La fête de ceux qui ont détruit tout ce que nous adorons, qui ont détruit tout ce que nous aimons. Rappelez-vous ce qu'a dit Saint Rémy lorsqu'il a reçu des fonts baptismaux Clovis. Un jour, nous aurons, si Dieu veut, au-dessus de l'autel, ceci expliqué par un vitrail. Lorsque Clovis a reçu, quand Saint Rémy a reçu Clovis, il lui a dit « Courbe la tête, fier Sicambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. » La révolution 89, mes bien chers frères, brûle tout ce que nous adorons. Notre cœur catholique adore tout ce que, au contraire, la révolution française veut brûler. Et donc il faut qu'en ce jour, notre cœur de français soit la fête. Il faut vraiment que nous reconnaissions la très sainte Vierge Marie comme notre reine. Et je voudrais vous expliquer un petit peu rapidement, par manque de temps, pourquoi cette dévotion est tellement importante. On a trop tendance à présenter la Très Sainte Vierge Marie exclusivement sous un regard, je dirais, doucereux, une espèce de Très Sainte Vierge Marie en guimauve, toute souriante au pied de la croix. C'est pas du tout ça. La Très Sainte Vierge Marie, c'est un chef de guerre, mes bien chers frères, comme Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc est à l'image de la Très Sainte Vierge Marie, plus exactement. Rappelez-vous ce qu'est dit, ce qu'applique l'Église catholique et la Très Sainte Vierge Marie, elle est forte comme une armée rangée en bataille. Donc un chef de guerre qui rassemble ses troupes pour lutter contre les ennemis de l'Église. Lutter contre nos ennemis, à savoir d'abord notre orgueil personnel et toutes les conséquences du péché originel en nous. N'oublions pas qu'il faut d'abord que les soldats qui travaillent pour notre Seigneur, qui œuvrent dans l'armée de Notre-Dame, soient eux-mêmes en état de grâce. Sinon, évidemment, on ne peut rien faire. Mais aussi tous ceux qui, à l'extérieur, essaient de déraciner complètement ce qui a été, ce qui fut la France chrétienne. Voilà pourquoi la Sainte Vierge Marie est une armée rangée en bataille. Et l'Église catholique applique à la Très Sainte Vierge Marie une deuxième parole qui est aussi très importante, qui date du tout début de l'histoire du monde. Vous savez qu'après le péché d'Adam et Ève, le bon Dieu a parlé. Il a annoncé déjà l'arrivée d'un sauveur. Il a annoncé au futur que quelqu'un allait arriver qui écraserait la tête du démon. Ipsa conteret. Ça veut dire « elle écrasera la tête du démon ». Il n'a pas dit « elle écrase » ou « elle a écrasé la tête du démon ». Ce « elle », c'est Notre-Dame. Elle a écrasé la tête du démon, ou elle écrasera plus exactement la tête du démon, parce qu'il va y avoir un combat terrible entre d'une part les fils de la Très Sainte Vierge Marie et d'autre part les fils de la Révolution. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pour cela que Notre-Dame est comme un chef de guerre pour chacun d'entre nous. Ipsa conteret, ça veut dire cela. Elle écrasera la tête du démon. C'est donc qu'il va y avoir un combat terrible entre le démon d'une part, avec la liberté, la fraternité, l'égalité révolutionnaire, et d'autre part, notre Seigneur Jésus-Christ, à la tête de son armée, avec les promesses évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et le bon Dieu a précisé les choses. Il a dit au démon, tout à fait au début donc de l'histoire du monde, il a dit au démon, « Je mettrai une inimitié entre toi et entre tes fils, tes enfants, les enfants du démon et les enfants de la femme. » Donc il y aura, dès le début, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu a voulu me placer dès le début comme une barrière de séparation entre les enfants de notre Sainte Vierge Marie, les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ, les enfants de la Sainte Église catholique, une sainte catholique et apostolique, et d'autre part, les enfants du démon, les enfants de la Révolution. Voilà bien, chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Nous aurons donc un combat terrible à mener. Et ce combat, nous ne pourrons pas le mener tout seuls. Nous pourrons le mener dans la mesure, justement, où nous sommes tous unis au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, au pied de l'autel, au pied de la messe. Pourquoi? Parce que la révolution veut détruire absolument toutes ces choses qui sont sacrées pour nous, à commencer par la destruction de l'autel qui est le symbole justement de la messe catholique. La révolution a déjà détruit les trônes catholiques. Et donc maintenant la révolution est en train de s'attaquer de plus en plus à l'Église catholique en détruisant la messe catholique, et aussi en essayant de détruire le principe même d'autorité, l'autorité même du chef de famille. Voilà, bien chers frères, pourquoi il nous faut nous battre. J'irais littéralement avec nos ongles nous battre pour conserver ce qui ne nous appartient pas et que le bon Dieu nous a confié. Le bon Dieu nous a confié une nation catholique. Qu'est-elle devenue? La France fut née de l'Église qui est née au baptême de Clovis en la lune de Noël de 496. Où est-elle, mes bien chers frères? Quand j'ai des amis étrangers qui viennent me voir, ils ont entendu parler de la France fut née de l'Église. Quand ils débarquent à l'aéroport de Roissy, à Paris, ils ouvrent les yeux, ils arrivent ici, ils me disent « Monsieur l'abbé, elle est où la France catholique ?» Je suis obligé de leur dire « Elle est un peu malade, la France catholique, elle est même très malade. » Alors mes bien chers frères, ne croyons pas que la France catholique est complètement morte. La preuve, elle est où? Elle est ici, mes bien chers frères. Vous êtes vous-même tous ici présents. Une des preuves, je ne dis pas que c'est la seule preuve, mais une des preuves de la vitalité de l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas encore morte, parce que l'Église catholique a les promesses de la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Par contre, il n'a pas promis qu'il y aurait une immense majorité de catholiques. Il a dit même le contraire. Parce qu'il a dit à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi? Il a parlé d'un petit troupeau. Mais ce petit troupeau, mes bien chers frères, est un troupeau qui représente comme une petite pierre qui peut coincer l'engrenage monstrueux de l'armée révolutionnaire. L'armée révolutionnaire en face de nous qui cherche à détruire tout ce que nous adorons encore une fois, comme un gigantesque rouleau compresseur qui passe et qui détruit tout. Et pour arrêter cette machine, il faut parfois un simple petit caillou coincé entre deux rouages et tout s'arrête. Le petit caillou, mes bien chers frères, c'est vous. Vous et moi. Voilà ce que nous devons faire si nous avons justement cette foi, à condition que nous ayons la foi. Rappelez-vous l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc. Nous aurons ici, si Dieu veut, un jour, au fond de la chapelle, un autre vitrail qui représentera Sainte Jeanne d'Arc et Saint Michel, recevant l'apparition de Saint Michel. Parce que Sainte Jeanne d'Arc est précisément un autre exemple qui est très cher à nos cœurs. Rappelez-vous que lorsque Sainte Jeanne d'Arc est arrivée à Orléans, les Anglais tenaient la ville depuis un an. L'armée française était en complète débandade. Et Sainte Jeanne d'Arc a réuni les chefs de guerre du côté français et a donné trois ordres, simplement, pas quatre, trois. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Que tous les soldats se confessent, que tous les soldats se communient et que les femmes de mauvaise vie qui sont dans le camp disparaissent, quittent le camp. C'est la seule chose qu'elle a demandé. Le plus grand des miracles de Sainte Jeanne d'Arc, c'est d'avoir obtenu que tous les soldats français se confessent et communient. Et après, elle leur a dit, lorsque mon étendard touchera le mur de la cité, ce sera le signe que la ville sera à nous. Et elle a remporté la victoire d'Orléans. Eh bien, chers frères, si nous voulons obtenir les mêmes effets, il faudrait peut-être remonter aux mêmes causes. Il faudra que nous aussi, mes bien chers frères, nous ayons le courage d'aller chercher les choses là où elles sont. D'abord, que les soldats de notre Seigneur Jésus-Christ soient des soldats en état de grâce. Si les soldats de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas en état de grâce, dans l'armée, dans l'amitié du bon Dieu, avec la grâce sanctifiante, c'est-à-dire avec la Sainte Trinité qui vit en eux, c'est en vain que les soldats combattent pour notre Seigneur. Ce sont des hypocrites. Nous voulons des vrais soldats, non pas des demi-soldats. Voyez bien, chers frères, ce que nous devons comprendre. Et voilà cette France catholique que nous cherchons à recréer. Le simple fait qu'en face de nous, nos ennemis, les ennemis de la France, les ennemis de l'Église catholique, qui sont en général les mêmes d'ailleurs, que tous ces ennemis n'aient de cesse de continuer leur travail de destruction, prouve une chose, c'est que la France catholique existe encore. Parce que s'ils croyaient, s'ils savaient que la France, ils pensaient vraiment que la France catholique était complètement détruite, ils ne chercheraient même plus à se battre contre nous. Nous sommes encore là, ils le savent. Ils savent qu'il y a encore des familles catholiques, ils savent qu'il y a encore des gens qui refusent d'utiliser, de se faire laver la cervelle par toutes les médias modernes. Il y a encore des gens qui se battent, mes chers frères. Alors battons-nous, et battons-nous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Battons-nous avec les véritables armes offensives. D'abord les armes spirituelles, l'état de grâce, pour avoir notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Parce que si nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, nous aurons avec notre Seigneur Jésus-Christ un second chef de guerre à notre côté, à nos côtés, à savoir notre Sainte Vierge Marie. Je voudrais aussi parler un petit peu de la prise d'habit de Cyril. C'est une grande joie pour nous de donner l'habit à un postulant. Aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est une grande victoire. On peut dire que la prise d'habit d'un jeune homme qui lâche tout pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme une claque bien insénée, tout droit dans le nez du démon. Qu'est-ce que c'est qu'un religieux, mes bien chers frères? Un religieux, c'est quelqu'un qui, par les trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, se voue en quelque sorte une guerre acharnée à trois choses. La concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie. Contre l'orgueil de la vie, évidemment, la vertu d'obéissance. Contre la concupiscence des yeux, la vertu de pauvreté. Et contre la concupiscence de la chair, la vertu de chasteté. Voilà, bien cher frère, ce qui est un religieux. Certes, le moment décisif est le moment des vœux définitifs. Mais dans la vie religieuse, les choses prennent leur temps. En général, il y a 12-13 ans d'attente avant de pouvoir faire ses vœux définitifs. Mais la prise d'habit est certainement ce qu'il y a de plus impressionnant. Parce que c'est vraiment une coupure totale avec toute sa vie du passé. Mon cher Cyril, vous allez devoir donc aujourd'hui vraiment couper avec votre passé. Non pas couper, bien sûr, avec les liens qui vous attachent à votre famille. Bien sûr que non, nous sommes heureux d'accueillir votre famille ici en ce grand jour. Mais couper avec ce que représente l'esprit du monde. Tout ce qui est représenté par l'esprit du monde doit disparaître en vous. Les prises d'habit sont très impressionnantes. Je me rappelle les prises d'habit que nous avions au séminaire. Séminaire des Cônes en Suisse, où j'ai été formé par Mgr Lefebvre. Et quand nous avions ces prises d'habit, justement, tous les postulants qui prenaient l'habit arrivaient évidemment en grande tenue. Souvent, nous avions des militaires qui étaient là, qui prenaient l'habit, qui rentraient au séminaire. Donc, parfois, des Saint-Syriens qui venaient avec le grand uniforme de gala, avec l'épée au côté. Ils venaient défiler en quelque sorte devant tous les fidèles avant de s'approcher de l'autel. Et c'était triste de voir certaines réflexions qu'on entendait à ce moment-là. Toutes les jeunes filles qui étaient là, regardez ces jeunes tout fringants, et disaient suffisamment fort pour qu'on entende « Quel gâchis !» C'était ce qu'on entendait. « Quel gâchis !» Ils avaient un peu l'impression, en voyant ces beaux jeunes hommes, « Ah, s'ils auraient fait certainement des bons époux, des bons pères de famille, certainement. » Mais le bon Dieu prend à lui, non pas le gâchis. Le bon Dieu prend à lui le meilleur, mes chers frères. Vous ne pouvez peut-être pas croire que la vie religieuse est peuplé de vieux bons hommes qui ne savent pas quoi faire de leur vie, ou de vieilles filles qui sont trop laides pour trouver un mari. C'est pas ça du tout. Le bon Dieu choisit pour le suivre, justement, des gens qui veulent tout donner. Et c'est ça dont nous avons besoin. La contre-révolution que nous menons ici, n'est pas une contre-révolution d'ordre naturel, c'est une contre-révolution d'ordre surnaturel. Donc nous avons besoin impérativement d'avoir avec nous, mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avons besoin d'avoir avec nous, pour soutenir cette révolution, justement, des gens qui ont compris ces choses-là, qui veulent se donner complètement au bon Dieu. Donc prions pour les vocations, prions pour que le bon Dieu amène des vocations dans toutes les maisons religieuses qui sont encore catholiques, il n'y en a plus beaucoup dans le monde, mais il y en a encore quelques-unes, pour que justement ces maisons soient des centres de formation de soldats d'élite. Un catholique, c'est un soldat d'élite. Nous devons devenir, mes bien chers frères, l'élite du monde. Non pas une élite financière, non pas une élite politique, une élite surnaturelle. Lorsque nous avons devant nous, lorsque le bon Dieu, lorsque le démon, pardon, a devant lui un homme, une jeune femme, ou une femme, ou un homme tout simplement qui vit en état de grâce, qui a compris ces choses-là, il a devant lui quelque chose qu'il ne peut pas détruire. Le pouvoir du démon est limité par le bon Dieu, mes bien chers amis. Le bon Dieu peut pas tout, le démon ne peut pas tout faire. Il ne peut pas bloquer une âme qui vit en état de grâce. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, vous devez bien comprendre ces choses-là. Nous ne serons pas sauvés par le pouvoir des votes, le pouvoir électoraux. Quelle bêtise de penser ces choses-là. Nous serons sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui sur la croix, par sa résurrection, juste après sa mort sur la croix le vendredi saint, par sa résurrection le jour de Pâques, justement a prouvé qu'il était Dieu et qu'à cause de cette divinité, il y avait une force divine en lui capable de tout transformer. Donc le bon Dieu est capable de transformer des cœurs de chair en cœurs d'acier, mes bien chers frères. Voilà ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de nouvelles Saintes Jeanne d'Arc. Nous avons besoin de nouveaux Garcia Moreno. Nous avons besoin de nouveaux Saint-Louis. Nous avons besoin de tous ces grands saints qui ont fait l'histoire de l'Église, qui ont fait l'histoire du monde. Et si nous comprenons ces choses-là, mes bien chers frères, alors nous verrons par nous-mêmes que le bon Dieu peut faire des miracles justement avec les nouilles que nous sommes naturellement parlant. Le bon Dieu peut donner à une nouille qui est complètement flasque par sa conversion à la foi catholique et à la grâce sanctifiante. Le bon Dieu peut transformer une nouille en barre d'acier, mes bien chers frères. Sommes-nous convaincus de ces choses-là? Êtes-vous convaincus de ces jours-là, de ces choses-là? Nous avons vraiment compris ces choses-là. Alors, mes bien chers frères, là, nous irons au combat, parce que c'est un combat, vraiment la joie au cœur, parce que nous servons notre Seigneur Jésus-Christ, comme les Vendéens, juste après la Révolution française, comme les Christéros, comme tous ces soldats du Christ qui, partout dans le monde, se sont battus pour conserver la foi catholique. Certes, la plupart sont morts, ils sont morts dans d'atroces conditions, ils sont morts martyrs, mais derrière eux, derrière ce sang des martyrs, il y avait une semence de chrétienté qui a levé. Et vous faites partie, mes bien chers frères, vous devez faire partie de cette semence de chrétienté qui lève derrière notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi au centre de cette journée, bien sûr, il y a le sacrifice de la messe, le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Parce que c'est cette messe qui fait descendre notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, et que sans notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel, nous ne pouvons absolument rien faire. Le bon Dieu n'a pas dit que sans moi vous aurez du mal à faire quelque chose. Il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Il a dit je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'a pas dit je suis une voie, une vérité, une des vies possibles. Non, il est l'unique voie, l'unique vie, l'unique vérité, hors desquels il ne peut pas y avoir de salut. L'Église catholique, mes bien chers frères, n'est pas une des églises par lesquelles nous pouvons être sauvés. L'Église catholique est l'unique moyen de salut, parce qu'il ne peut pas y avoir de moyen de salut hors de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et crucifié pour nous sur la croix. Voilà ce que nous allons demander. Nous allons demander donc cette aide surnaturelle, cette aide extraordinaire dont nous avons tous besoin. Et nous allons bien sûr beaucoup prier pour Cyril pendant cette cérémonie, pour qu'il soit, qu'il devienne, commençant son postulat, son noviciat aujourd'hui, qu'il devienne un soldat d'élite de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vous tous ici, présents, vous deveniez des soldats d'élite de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette maison, je vais terminer par cela, cette maison représente deux choses pour nous. Dans cette maison, il y a l'alliance, on dit, de la croix et de l'épée. La croix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la maison de retraite. L'épée, c'est l'œuvre qui est juste à côté, l'œuvre des éditions Saint-Rémy, fondée par M. Saglio. Sans lui, il n'y aurait rien ici. C'est sa chapelle ici, c'est sa propriété, n'oubliez pas. Alors, remercions-le de tout ce qu'il a fait justement pour cette Église et associons-nous à ce combat terrible qui doit être le nôtre, l'association de l'épée catholique et de la croix catholique. Alors lui, il vend justement ses livres, il fait la bonne littérature et il réimprime ses grands livres de contre-révolutionnaires, surtout du 19e siècle, qui étaient devenus plus ou moins introuvables. Et nous ici, en tant que prêtres, moi en tant que prêtre, associé bien sûr aux gens qui sont dans la maison, qui m'aident à faire tout ce travail, sans eux, encore une fois, je ne pourrais rien faire. Eh bien, nous ici, c'est la prédication des retraites. Nous avons 16 retraites par an et ça aussi, c'est important. Vous avez au fond de la chapelle, pour ceux qui ne connaissent pas ces papiers, petits papiers jaunes avec les dates de retraite. C'est des retraites de 5 jours qui sont très anciennes, qui datent du 16e siècle. donné par la Sainte Vierge Marie et Saint Ignace de Loyola, le plus grand saint de l'Église catholique, le fondateur des Jésuites. Et ces retraites sont tellement fortes, mes bien chers frères, encore une fois, qu'elles peuvent transformer une nouille en barre d'acier. Alors j'espère que tous les adultes qui m'écoutent, qui ne sont pas encore venus aux retraites, vont pouvoir venir suivre ces retraites de 5 jours et trouver cette force que le bon Dieu seul peut nous donner. Alors nous demanderons, bien sûr, aujourd'hui, mes bien chers frères, la très sainte Vierge Marie, de nous donner, d'obtenir pour nous toutes ces grâces, parce qu'elle est la médiatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces que le bon Dieu veut nous donner, elles passent par sa mère. La très sainte Vierge Marie était celle qui nous a amené notre Seigneur Jésus-Christ, donc il est normal que notre Seigneur Jésus-Christ ait voulu passer également par elle pour obtenir pour nous toutes ces grâces dont nous avons tant besoin. Nous demanderons avec humilité de toutes ces grâces à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.